Ce message de louange d'une façon particulière. Seigneur, nous voulons voir la beauté de ta gloire ce soir et on te demande que tu puisses parler à chacun d'entre nous là où nous sommes. Et Seigneur, je crois que tu as quelque chose pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, encore une fois, bonsoir à vous tous. Alors, comme dans la prière, ça va, tout le monde m'entend bien? Ok. Alors, j'ai énormément de versets bibliques. Je vais simplement vous les citer. Et comme ça, vous-même, vous pouvez les regarder par la suite. Mais ce soir, j'ai décidé de parler, pour donner un titre au message, de la beauté de la gloire de Dieu. Et juste pour m'appuyer sur un premier verset, parce qu'il y en a des centaines et des centaines dans la Bible, on va prendre le premier verset, c'est Hébreux, chapitre 1. Verset 3. Étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et juste, donc c'est vraiment la partie A, étant le reflet de sa gloire. Bien évidemment, ça nous parle de Jésus-Christ. Le mot gloire, que c'est la même racine en hébreu et en grec. En grec, ça donnait doxa, ça a vraiment été traduit glorieux, honoré, éclat, beauté, tout ce qu'on veut. Et on a aussi le mot péché qui est assez connu aussi. C'est amartia, c'est celui qui pêche, celui qui fait le mal. D'après le dictionnaire, dites-moi si je vais trop vite, ok? Donc vraiment, le sujet, ça va être la beauté de la gloire de Dieu. Parce que de nos jours, beaucoup de gens cherchent une forme de beauté, que ce soit tout le monde à la mode, que ce soit tout le monde le même visage, tout le monde la même voiture, tout le monde les mêmes habits. Et aussi, on cherche une forme de gloire, c'est-à-dire la reconnaissance. D'ailleurs, la définition de la gloire, je vais vous la dire, d'après le dictionnaire, la gloire est une renommée éclatante. C'est drôle que tu as les deux mots, gloire et beauté. Renommée éclatante, un grand prestige dans jouit quelqu'un dans l'esprit ou dans un grand nombre de personnes. Par exemple, comme certains joueurs de football, des musiciens, des acteurs, on peut dire ils ont une forme de gloire. Mais la Bible, c'est un peu plus profond que ça quand même. Mais dans la Bible, la gloire de Dieu est définie comme indescriptible, tellement elle est grande. La gloire de Dieu est considérée tout d'abord comme le rayonnement qui se dégage de sa personne, rayonnement qui éblouit, qui aveugle et qui inspire à tous une crainte, un respect, une admiration et une adoration. Rien à voir, n'est-ce pas, déjà avec la gloire éphémère. Vous pouvez prendre aussi en parallèle avec avec 1 Corinthiens 15, le vieil Adam, le nouveau Adam, la gloire de l'ancien, la gloire de nouveau. Moi, je ne vais pas trop parler. Pour appuyer un peu tous ces versets, ce que je disais, donc c'est Ézéchiel 1, 28. Ensuite, ça nous parle d'une splendeur semblable à celle d'un arc-en-ciel dans la nuée. Telle était sa gloire, Exode 24, 17. Et sa gloire ressemblait à un feu dévorant. Et cet éclat qui empêchera Moïse de contempler la face de Dieu, car nul ne peut voir la face de Dieu et vivre. Exode 33, le verset 18. Au verset 20. Il y a beaucoup de versets. Hein. Vous pouvez noter si vous voulez. C'est Actes, chapitre 7, verset 55. Mais pour ceux qui le désirent, je peux leur envoyer les notes avec tous les versets. Encore une fois, le psaume 96, verset 6, qui nous parle encore de la gloire, mais en même temps de la beauté. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. Et la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Même Moïse déclare en ces termes par rapport à la gloire de l'Éternel. On voit ça dans Exode 15, 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté et digne de louange, opérant des prodiges? Ça change quand même entre la gloire éphémère où la rouille arrive, où le voleur arrive, face à la gloire de Dieu qui est incomparable. Et la gloire de Dieu, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a beaucoup de versets, notez-les, elle est souvent liée à la beauté de la gloire. C'est pour ça que le titre, je l'ai appelé la beauté de la gloire de Dieu. On va aller plus loin. Maintenant, on va passer un peu le côté un peu négatif. Normalement, tout ce qui est laid, tout ce qui est moche, n'est pas glorieux. Comme on disait tout à l'heure à Martial, le péché, c'est pas quelque chose qui est... On voit jamais, on voit dans, par exemple dans Genèse chapitre 20, verset 9, quand Abraham il fuit, il y en a un qui lui dit, tu as commis un grand péché, mais on va pas un grand péché glorieux. Parce que ce qui est mal est moche. Ce qui est mal n'est pas glorieux. N'est-ce pas? Mais j'aimerais aussi, il y a beaucoup à dire, mais je vais pas trop m'attarder. Mais j'aimerais aussi vous dire aussi, c'est que plus nous admirons la gloire de Dieu, plus nous réalisons la beauté aussi, puisque les deux sont liés. Si la gloire de Dieu a un effet dans nos vies, la beauté de Dieu se reflète en nous. Je vais répéter cette phrase-là. Si la gloire de Dieu a un effet dans nos vies, la beauté de Dieu se reflète en nous. Et pour vous donner un peu, pour vous appuyer avec un verset biblique, Exode 34, verset 29, quand Moïse y passa beaucoup de temps dans la gloire de Dieu, il est descendu, et comment était son visage? Rayonnant. Plus je demeure, je répète, hein, si la gloire de Dieu a un effet dans nos vies, la beauté de Dieu se reflète en nous. Tout comme Moïse, il a contemplé la gloire de l'Éternel pendant 40 jours. Et dans le même passage, vous voyez qu'il a rien mangé. Mais quand il est descendu, son visage rayonnait. C'est vraiment waouh. Et regardez 2 Corinthiens 3:18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. 2 Corinthiens 3:18. Et qu'est-ce que Moïse dit? Seigneur, montre-moi ta gloire. Et on sait ce que s'est passé dans Exode 33. Mais cette beauté, c'est pas quelque chose de nouveau. Cette beauté, en réalité, cette beauté et cette gloire, ça a commencé bien avant la fondation du monde. Ça va, tout le monde me suit pour le moment? Je vais pas trop compliqué, pas trop, ça va? Ok. Donc, la gloire ou la beauté, ça commence avant toute chose au sein de la Trinité. Puisque les trois parties, les trois, le Seigneur est trois fois un, ben les trois, ils ont la même attribut, les trois, ils ont la même gloire, les trois, ils ont la même beauté. Par exemple, on voit dans 2 Corinthiens 4:4, j'aime beaucoup, il parle par rapport à Jésus, je vais juste vous prendre la partie B, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Colossiens 1:15, il est l'image de Dieu invisible, il est le premier-né de toute la création. Et parce que le Père s'est glorifié dans le Fils, on voit aussi dans Matthieu chapitre 3, verset 17, il nous voit ce qui entend dans les cieux, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir, toute mon affection. Donc on voit que la beauté de la gloire, ça commence premièrement dans la Trinité. C'est vraiment le début. On voit aussi la beauté et la gloire. C'est rempli de versets bibliques, je ne vais pas vous les citer tous, dans la création. Par exemple, quand Dieu a créé le monde, c'est vraiment pour manifester sa gloire, pour manifester sa beauté. Par exemple, le psaume 19, verset 1, au chef des centres, psaume de David, des centres, non des chantres, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, c'est comme dans un sens, quand Dieu a créé la lumière, c'est comme s'il préfigurait ce qu'il faisait dans le cœur d'un être humain pécheur. Par exemple, regardez dans 2 Corinthiens 4:6. C'est vraiment fabuleux. C'est comme si Dieu a préfiguré en créant la puissance, la beauté La lumière, c'est exactement ce que se passe par la suite dans le cœur de l'homme. On voit ça dans 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu qui a dit la lumière brilla au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Christ. Vous avez vu, il y a beaucoup de versets hein, sur la gloire. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, Dieu, par la création qu'il a créée, il montrait aussi, comme on peut dire ça, un mot, comme préfiguré de ce qui peut se passer dans le cœur d'un pécheur. Comme je disais dans 2 Corinthiens 4, 6. Mais la création, comme vous le savez, c'était quelque chose de magnifique. Ça devait être splendide, ce jardin. Ça reflétait qui était Dieu, comme on a dit, donc le psaume 19, verset 1. Mais il y a eu la chute. Et la chute, si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est un peu comme une éclipse. Une éclipse qui a couvert la gloire de Dieu, qui a couvert la beauté de Dieu. En gros, qu'est-ce que s'est passé dans la chute, hein, dans Genèse chapitre 3? C'est que l'homme, l'être humain, Adam et Ève, ils ont arrêté de regarder à la beauté de la gloire de Dieu. Ils se sont concentrés sur eux. Et qu'est-ce que ça a donné? Ben, ça fait la séparation. On peut dire c'est comme une éclipse. Mais sauf que Dieu, qui est omniscient, on va arriver beaucoup plus tard dans le message, comme il est omniscient, il avait déjà tout prévu d'avance. C'est pour ça que je l'appelle comme une éclipse. C'est-à-dire qu'une éclipse, quand il y a une éclipse, vous voyez plus le soleil, il est caché. Et nous, c'est pareil, quand on a le péché, ça nous a séparés de Dieu. Ésaïe 59, verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face et vous empêchent de l'écouter. C'est étonnant, hein? C'est pour ça que je l'ai appelé un peu comme une éclipse, un aveuglement. Romains 1, 22, 23. Parce que ce qui s'est passé, c'est que l'homme, c'est vrai, il a perdu cet accès à Dieu. Dieu qui venait de Genèse chapitre 2 pour cultiver l'être humain, il a perdu cet accès. Et en quelque sorte, ils se sont fait eux-mêmes des dieux. Romains 1, 22, 23. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. C'est clair, le verset. Mais c'est intéressant, hein? C'est que l'homme, Adam et Ève, ils ont fait dans le jardin d'une façon ou d'une autre. Et c'est que l'être humain continue à faire aujourd'hui. Changer la gloire de Dieu en quelque chose de corruptible, quelque chose de éphémère. Mais heureusement, l'évangile ne s'arrête pas à la chute. Nous avons la beauté aussi de l'incarnation de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est venu en homme. Et on voit ça, un verset qui est connu, Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Vraiment, comme on a dit le premier verset, Hébreux 1, verset 3, vraiment Jésus-Christ, il reflétait la gloire du Père. Après, ce que je peux dire, j'ai trouvé un prédicateur qui s'appelle Jonathan Edwards. Il a vécu entre 1703 et 1758. Et il parle vraiment de la beauté de sa vie. Alors, je ne sais pas si ça a été bien traduit ou pas. Robert, tu me diras. En fait, en anglais, ça donne. Il a inventé un peu un mot. Ça s'appelle happifying. Et en français, ça donnait une bonne rente. Ça ne veut rien dire. Comment on peut traduire ça, Robert? Happifying. Pas la connexion. Tu nous le diras à la fin, c'est pas grave. Mais il est intraduisible. C'était juste pour dire qu'en fait, pour cet homme-là, il y a une beauté, il y a un miracle dans le salut, ce qui est vrai. Le miracle créé à la vue de la beauté de Christ, de la nouvelle naissance, de la nouvelle création. De Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est vraiment un miracle. C'est la même chose, la même beauté que. Ça a été créé dans Genèse chapitre 1. avec la beauté. Mais si vous regardez en fait Jonathan Edwards, il a fait un livre par rapport au salut, la beauté dans le salut, et c'est très intéressant. Vous pouvez le trouver même sur Internet. Je ne sais pas s'il existe en français, mais c'est assez intéressant. Après, juste pour continuer un peu sur la beauté ou la gloire, il y a aussi une forme de gloire. Et il y a une forme de gloire, c'est même pas une forme. C'est dans la sanctification. Alors, c'est quoi? Positionnellement, nous sommes saints. Du moment où nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes saints parce que nous avons été jugés avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est mort. Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une sanctification, ce qu'on appelle progressive. Et dans cette sanctification progressive où Dieu fait, où Dieu agit, ben en fait, ça nous amène vraiment à s'oublier et à chercher la gloire de Dieu. Comme je disais dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ensuite, toutes ces beautés, toute cette gloire, elle n'est pas là juste par hasard. Comme je disais au début, et quand je parlais, quand Dieu se révèle, c'est toujours pour nous pousser à l'adoration. Par exemple, le psaume 27, verset 4, je demande à l'Éternel une chose, et je le désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et pour nous, une dernière partie, après je vais développer autre chose, cette gloire-là, c'est notre héritage. C'est notre héritage. C'est-à-dire, comme tu nous sommes au ciel, regardez, Jean 17, 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Et qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Apocalypse 22, verset 4. Et nous verrons sa face, et son nom sera sur le front. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà, ça c'est un peu la présentation de, comment dirais-je, de la gloire de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Je sais, c'est une grande présentation, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Concrètement pour nous, en fait, il y a 1 Corinthiens 10, 31, je vais le chercher. Ça va être beaucoup plus simple. Que tout ce que vous faites, il est très connu ce verset, que tout ce que vous faites, faites pour la gloire de Dieu. Plus précisément, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Concrètement, une application pour nous. Comment, de nos jours, peut-on vivre en cherchant la gloire de Dieu? Là, c'est quelque chose de concret. C'est-à-dire, parce que là, on voit ça donc l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, 31. En gros, que vous mangez, que vous buvez, que vous dormiez, que tout ce que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors le mot gloire, c'est toujours le mot doxa, mais c'est vraiment plus précisément pour rencontrer Dieu. Et là, on a vu comment pour rencontrer un Dieu si saint, un Dieu qui est aussi splendide, comme glorieux, qui est saint, qui est rayonnant, comme on a vu que même Moïse ne pouvait pas tenir. Pourtant, Moïse, c'est un homme. Comment on peut s'approcher du trône de la grâce? C'est uniquement par la foi. En réalité, la gloire de l'Éternel, cette gloire qu'il veut nous partager, même la gloire que Salomon avait, c'était éphémère. Et pourtant, quand vous regardez dans Deux Chroniques, les premiers chapitres de Deux Chroniques, vous voyez que la gloire de Salomon, c'était quelque chose de grandiose. Et pourtant, c'est pas quelque chose qui a de la valeur. Pourquoi? Parce que de nos jours, l'être humain, il cherche à se justifier. Il cherche à amasser des trésors. Il cherche, comme on connaît ce verset, là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Il cherche à se faire un nom. Il cherche à comment dirais-je, que les gens ne l'oublient pas. Pourtant, un jour ils vont mourir. Pourtant, un jour ils vont être enterrés ou pas. Pourtant, un jour leur nom, c'est cas de l'histoire. Mais qu'est-ce qui restera au final? C'est notre foi. Qu'est-ce qui nous conduit au ciel pour être vêtus de cette gloire? C'est notre foi. Comment on peut connaître cette gloire au quotidien si on se laisse nourrir par sa parole? Le psaume 119, verset, je vais juste le chercher. Le psaume, j'ai oublié, voilà. Je vais le chercher. C'est le psaume 119. Comment le jeune homme gardera les sentiers purs? C'est en marchant d'après ta parole. Je vais juste le lire, le vrai psaume. Voilà, le psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers? En se dirigeant d'après ta parole. Voilà, et je me suis dit, c'est intéressant de parler de la gloire, parce que c'est quelque chose que tout le monde cherche d'une façon ou d'une autre. C'est y compris même parfois dans l'église. Pourquoi je fais les choses? Est-ce que c'est pour essayer d'avoir une forme de gloire, une forme de notoriété, comme on a vu dans la définition, une forme de splendeur, une forme de, comment dirais-je, d'éclat. Et en fonction de ce que nous on fait dans l'église, en fait, c'est très très facile de mettre son identité dans le matériel, dans ce qu'on fait. Et en fait, on met son identité dans tout ce qui sort de l'identité que Dieu nous donne. Mais pour vivre la véritable gloire, telle que pour vivre, pour l'expérimenter au quotidien, cette gloire, je vais donner un exemple plus concret. Par exemple, pourquoi je sers avec les enfants? Pourquoi je travaille avec les enfants? Pourquoi je fais l'école dimanche? Ça peut être humainement parce que je fais ceci ou cela, mais en fait, quelle est la motivation réelle? C'est pour leur présenter Christ, pour que Christ soit partagé, pour que Christ soit élevé dans leur vie, pour que Christ grandisse dans leur vie, pour que Christ soit honoré, comme on l'avait vu dans la définition doxa. Et en fait, on peut mettre ça dans tous les domaines, y compris dans le domaine de notre vie. Pourquoi je fais cela? Vous savez, Jérémie nous dit que le cœur de l'être humain, il est tordu par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est-à-dire que les motivations dans notre cœur peuvent être très étranges, très bizarres, pour s'attirer une forme de gloire. Pour s'attirer une forme de regarder ce que j'ai fait. Pourtant là, l'apôtre Paul, quand il parle dans 1 Corinthiens 10, 31, il parle aux Corinthiens. C'est pas l'église la plus spirituelle. Mais il faisait quoi? Tout pour la gloire de Dieu. Plus précisément, tout pour rencontrer Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait le ménage à l'église, pourquoi on le fait? C'est pour servir, c'est pour honorer le Seigneur, c'est pour le glorifier, c'est pour que le Seigneur se révèle dans l'église. Quand je sors pour annoncer l'évangile, pourquoi je le fais? Quelle est ma motivation? Et en fait, cette motivation-là, il n'y a que Dieu qui connaît et il n'y a que vous qui connaît. Personne ne peut connaître la motivation de votre cœur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette gloire qui est magnifique, qui est rayonnante, comme Moïse qui a passé 40 jours dans la montagne, comme Josué, que même quand Moïse quittait le temple, il admirait. Il est resté dans la présence de Dieu. Nous aussi, on peut faire de même. Seigneur, je comprends peut-être pas tout, mais je décide de te croire. Je décide, Seigneur, de te glorifier dans cette situation. Je décide, Seigneur, de te glorifier en te faisant confiance dans les finances, peu importe les domaines que vous voulez. Cette gloire-là, on peut la vivre maintenant. C'est vrai, il y a un héritage qui nous attend au ciel. Il y a une gloire vraiment inébranlable, une gloire incomparable qui nous attend au ciel, comme on l'a vu au tout début. Mais aujourd'hui, nous pouvons expérimenter la gloire, la beauté de Dieu. Rappelez-vous cette phrase que je disais, quand la gloire de Dieu a un effet dans notre vie, cela se reflète dans notre cœur. Et les autres, tout autour de nous, vont être touchés parce qu'ils ne voient plus nous, mais ils voient Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Des fois, vous savez, je me suis un peu Quand j'ai préparé un peu ce sujet, je me suis dit, waouh, Seigneur, tu vas me conduire où? Parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup à dire. Tous les versets, ils sont tellement remplis sur la gloire de Dieu. Mais je crois que le principal, c'est que cette gloire-là, la Trinité, on peut l'expérimenter dans notre cœur. Déjà, un, parce que Dieu est dans notre cœur. Et deux, parce que Dieu nous amène à sortir du monde, à vivre par la foi, et à vivre, et à marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est ça notre vie. C'est ça notre but. Et quand nous réalisons les motivations de notre cœur, c'est juste pour rencontrer le Seigneur, c'est juste pour le rendre gloire, pour l'honorer, pour le louer, ben, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont être touchés. Et nous, on dit, Seigneur, mais comment ça se fait que tu m'as utilisé? Je suis incapable, Seigneur. Oui, c'est vrai, naturellement, tu es incapable. Mais ce que tu es entre mes mains, c'est parfait pour que je me glorifie. Tel que tu es, qui tu es, tes faiblesses, tes maladies, peu importe, entre tes mains, je vais manifester ma gloire. Rappelez-vous ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 2:10, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est la gloire de Dieu en moi qui se reflète pour les autres. Et nous, des fois, on peut se dire, voilà, pourquoi des fois, qui n'a jamais fait cette prière, Seigneur, montre-moi ta gloire, comme Moïse, Exode 33. Et pourtant, la gloire se vit déjà, à travers sa parole. Tu peux découvrir la gloire, la beauté de sa gloire, de son message, de ce qu'il a fait dans ma vie, mais aussi dans l'Église. Mais si la gloire de l'Éternel reste comme dans le temple, juste dans le temple, ben c'est dommage. Dieu nous a appelés à sortir. Dieu nous a appelés à témoigner. On ne témoigne pas juste en donnant un tract ou en parlant juste de messages et que nous-mêmes, on ne le vit pas. Nous sommes appelés à vivre le message. Nous sommes appelés à louer, à honorer cette gloire, cette beauté divine. Nous sommes appelés à suivre Christ. Comme Matthieu, faisons comme Matthieu. Toi, suis-moi. Seigneur, j'arrive pas à voir la direction, mais ne t'inquiète pas. Ma gloire est là, dans ton cœur. Mais voilà, je vais pas faire trop long parce que ça sert à rien. Mais le message de la gloire de Dieu, quelle est la motivation? Il y a deux types de motivation. C'est soit ma propre gloire et que j'exalte cela. Ça s'appelle de l'ego ou peu importe. Soit la motivation pour glorifier Dieu. La motivation pour rencontrer Dieu. La motivation pour partager, pour faire connaître ce Dieu sauveur. Entre nous, vous pensez vraiment pas que c'est la seule solution? Le monde dans lequel on vit ne traverse-t-il pas des choses tellement surprenantes où il y a la peur qui règne et peu importe ce qui règne? Et si on partagera la gloire ensemble, la gloire de Dieu? Peut-être que ça va pas changer le monde entier. Peut-être. Mais en tout cas, ceux qui sont autour de nous, ils vont pas nous voir, non? Et ils vont se dire, waouh, je veux goûter aux bontés de l'Éternel. Je veux goûter à ce que tu as de plus que ce que moi je n'ai pas. Je veux goûter à ce que toi tu as et que je ne trouve pas dans le monde. Je veux goûter à ça. On cherche quoi? Seigneur, je te sers par mes forces. Je vais me fatiguer. Ou Seigneur, je suis tel que je suis. Mais je veux simplement glorifier ton nom. Parce que son nom seul, on va regarder le psaume, hein, comment il commence, comment il finit. À toi seul, sois la gloire. C'est ça. Mais voilà, je vais juste m'arrêter. On va prier. Et cette gloire-là, aujourd'hui, on peut la vivre. En nous, dans l'église et autour de nous, à l'extérieur. C'est ça que Dieu cherche. Dieu ne veut pas, soyons pas comme Moïse qui rentre dans la tente en se couvrant le visage. Et en plus, c'est repris dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreux. Mais sortons, sortons. L'évangile qui brûle dans notre cœur, il brûle et il est visible par les autres. Même s'ils ne le reconnaissent pas, peut-être parce que comme je disais tout à l'heure, ils ont l'éclipse dans les yeux, ils sont aveuglés. Mais l'évangile brille. Notre vie, elle brille. Nous sommes des lumières. Nous sommes des co-héritiers, nous sommes des ambassadeurs. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus, ça? Le livre des Philippiens, chapitre 4, nous dit, nous avons tout reçu. Cette gloire-là, dans ma maison, dans ma famille, même ceux qui ne croient pas, je peux le vivre. Parce que c'est le désir de Dieu. C'est quoi? C'est qu'on soit au milieu de la Trinité. Pourquoi? Pour le remercier, pour l'adorer, pour travailler ensemble. Rappelez-vous, c'est celui qui a commencé en vous, c'est lui qui va l'achever. Même quand on pense que nous sommes incapables de faire ce que Dieu nous demande, Dieu fait un miracle, parce qu'il est Dieu. Mais voilà, nous pouvons vivre la beauté de la gloire de Dieu maintenant. Pas dans le passé, avec la nuée, avec le feu, avec l'arbre qui brûle, avec peu importe. Aujourd'hui, dans notre cœur, à travers Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, et à travers la parole, nous pouvons vivre et expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de le fait d'expérimenter, Seigneur, ta parole au quotidien, c'est quelque chose de merveilleux. Mais c'est aussi quelque chose qui nous révèle ta gloire, qui nous révèle ton caractère, qui nous révèle ce que tu as fait pour nous. C'est vrai que c'est un sujet très vague sur ta gloire, parce qu'on a peu de connaissances. Mais Seigneur, cette gloire, de pouvoir l'expérimenter comme Moïse, il a expérimenté comme Abraham qui parlait avec toi comme un ami, comme d'autres, Josué. Nous aussi, on veut l'expérimenter, Seigneur. On ne veut pas juste la garder pour nous, mais on veut le partager tout autour de nous. Alors Seigneur, merci de conduire encore cette soirée. Amen.
Merci beaucoup, Lazio. C'est super. Merci pour le partage ce soir. On a quelques minutes qui restent. Je ne sais pas qui a une question, mais Lazio, tu es disponible.